Et précisons quand même que grâce aux volontés conjointes de toute l'équipe de l'Institut Art, on ne voit plus Nina. Ah ben voilà. De l'Institut Art, de Philippe Georgeon, le responsable de l'action culturelle des médiathèques de la ville de Saint-Étienne, de la bibliothèque universitaire Tréfilry, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Thomas Flao. Thomas, nous avons, alors j'avais écrit 1h30, mais bon, maintenant un petit peu moins, une heure et quart pour faire votre connaissance, pour découvrir votre travail, vous écouter et vous interroger aussi. Vous êtes écrivain, romancier, dramaturge, performeur, et les médiathèques de Saint-Étienne vous accueillent actuellement pour une résidence d'écriture de 3 mois, c'est ça? Voilà. Alors, cette résidence, dans une ville où les traces du passé industriel sont visibles, où la mémoire de la culture ouvrière est encore un peu présente, cette résidence, dans un tel lieu, elle a du sens pour vous, n'est-ce pas?
Ouais.
Il s'agit d'une manière détournée de vous demander de vous présenter.
Ouais, c'est ça. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, dans la classe ouvrière. À ce titre, ce qui reste passé à industriel de la ville me touche avant de m'intéresser même. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, j'avais pas l'intention ni l'ambition d'écrire sur cette ville, parce que je trouve d'abord que prétendre qu'on va pouvoir connaître une ville dans laquelle on passe que 3 mois, ça fait un peu de temps au pays des soviets, quoi. On débarque quelque part et puis on se permet de parler ça. Par contre, j'arrivais avec avec un imaginaire qui est moins connecté avec l'endroit d'où je viens, c'est-à-dire où j'ai grandi dans le pays de Montbéliard, les sociologues parlent de nébuleuse, c'est-à-dire qu'en fait c'est un regroupement de petits villages qui forment une sorte de grande agglomération d'environ 150 000 habitants. C'est que des bourgs et des villages, rien de plus de 10 000 habitants comme ça, avec au milieu de cet endroit qu'on appelle en partie Technoland, c'est-à-dire que c'est que des sous-traitants des usines Peugeot, au milieu de la grande usine Peugeot de Sochaux, qui est plus grande que la ville elle-même. Moi, je viens de cet espace-là, ce paysage-là, et de cet espace social-là, où finalement, quelle que soit la trajectoire à laquelle on rêve, quelle que soit la vie à laquelle on est destiné, où on se destine, on la rêve, on la pense, on la conçoit en face des murs de la grande usine. Le passé industriel de Saint-Étienne me parle, mais je crois qu'il me parle d'autant plus que je ne viens pas d'une famille qui est absolument originaire de ce coin-là. Mes parents y sont arrivés pour le travail, pour travailler dans les usines Peugeot, mais ma mère vient de Moselle et mon papa vient de Lens. Et donc ils sont tous deux descendants de mineurs de charbon. Donc il y a quelque chose qui vient pour la première fois de ma vie interroger cette dimension-là. Il y a un questionnement là, moi, que j'ai commencé à un petit peu à. Bah, j'ai un peu commencé à cheminer là, dans cette mémoire-là, qui est pour moi quelque chose de trop lointain pour que ça ait pu avoir des conséquences vraiment palpables sur mon imaginaire, sur ma trajectoire, etc. Parce que j'ai plutôt grandi dans un univers qui était déterminé par l'industrie automobile. Mais voilà, peut-être qu'il en restera quelque chose dans un livre après, quoi. Je vais citer depuis Curio et puis je me suis dit que c'était intéressant pour moi de me retrouver dans ces espaces reconstitués, bien sûr beaucoup plus froid que ce qu'était la mine, bien sûr beaucoup moins brillant que ce qu'était la mine, mais ça m'a fait quand même me souvenir que j'ai deux arrière-grands-pères qui sont morts de silicose. Ça avait quelque chose de... Ouais, enfin, je le prévoyais pas. J'étais arrivé sans préjugé sur ce que ça me ferait, et ça me questionne plus que ce que je pensais.
Et alors, donc vous avez grandi auprès d'une famille d'ouvriers, de frontaliers, hein, parce que la Suisse d'ailleurs est très présente dans vos textes. Et vous en êtes parti. Vous avez fait des études.
J'ai pas arrêté de partir et de revenir. Je suis parti de chez mes parents à 15 ans. Et j'ai le lycée, les études. J'ai fait des études d'art du spectacle à Strasbourg. Études au bout desquelles je suis rentré en école d'art à Berne, une section d'écriture littéraire, une section bilingue français-allemand.
Alors ça, je pense que ça va intéresser plusieurs des étudiants et des étudiantes qui sont ici, qui ont participé à des ateliers d'écriture.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette école ?
Cette école, c'était une des premières en Europe. Parce que moi, j'y suis rentré en 2012, qui était une année assez importante dans le déploiement de structures, enfin de masters de création littéraire en France. Il existait la formation en écriture dramatique à l'ENSAT depuis quelques années déjà. Mais c'est, je crois, en 2011 que le master de Paris 8 a été lancé, et également le master du Havre. Il me semble que le master de Cergy n'existait pas encore. Et par contre, l'Institut littéraire suisse existait depuis 2004, il me semble. Parce qu'en fait, ça provenait d'une tradition germanique, de ces masters en écriture créative, qui est quelque chose qui est développé dans le monde germanique, en Autriche, en Allemagne et en Suisse allemande, avant l'ère géographique francophone, et qui existait aussi déjà dans le monde anglo-saxon et aussi au Canada, au Québec.
Oui.
Et donc moi je suis parti là-bas parce que j'ai été convaincu par des professeurs quand j'étais à l'université de Strasbourg que je pouvais être à mon endroit dans l'écriture, parce que des études d'art du spectacle, c'est des études dans lesquelles il y a un gros volet pratique, et il se trouve que je me suis retrouvé en art du spectacle parce que j'avais fait des vœux au hasard sur le portail post-bac, et que je ne me destinais pas du tout à être comédien, et que donc il fallait bien trouver quelque chose à faire pour valider mes ateliers pratiques, quoi. Et j'avais le choix entre jeu, scénographie, médiation culturelle et écriture dramatique, je crois. Et à ce moment-là, je savais que je n'avais... Je suis absolument nul comme comédien, j'ai pas de corps, enfin, je sais pas me tenir sur un plateau, je tremble des genoux, c'est une horreur, ça me terrifie. Et donc l'écriture me semblait être un endroit dans lequel je pouvais me sentir à peu près à l'aise, quoi. Et il se trouve que je me suis senti très à l'aise, et que j'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là, notamment une doctorante qui organisait les ateliers pratiques d'écriture, qui s'appelle Magali Mouget, qui a fait sa formation à l'ENSAT, qui est aujourd'hui autrice dramatique, essentiellement uniquement, et qui a sa petite fame d'ailleurs maintenant, aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de la voir comme enseignante, parce qu'elle a repéré que c'était pas juste un endroit où j'avais un peu de talent, c'était un endroit où véritablement je me plaisais. Et elle m'a incité à candidater à des masters de création littéraire. J'avais jamais entendu parler de l'existence de ces sections avant qu'elle m'en parle. Et donc voilà comment je me suis retrouvé en Suisse. Mais il se trouve aussi que la Suisse était présente à côté de là où je vivais. Moi, c'était comme une sorte de... L'existence de la Suisse, j'ai envie de dire, m'a permis durant toute mon adolescence de ne pas réfléchir à mon avenir. C'était un peu, je sais pas ce que je vais faire après, mais de toute façon, je sais que je vais trouver du travail à l'usine en Suisse et que je vais me faire 4000 euros par mois. Et c'était le truc, quoi, qui m'a presque rendu statique, je dirais, toute mon adolescence. J'ai pas besoin de penser à l'avenir parce que de toute manière, je peux aller braquer la Suisse.
Oui.
Et c'est pour le coup, c'est quelque chose qui travaille, c'est un imaginaire qui travaille aussi, mais les personnages des Nuits d'été, qui est un texte que j'ai commencé à écrire quand j'étais moi-même ouvrier frontalier. C'est un texte que j'ai commencé à écrire à l'atelier. Donc j'ai été ouvrier frontalier justement pour financer ces études en Suisse. Je faisais VSD, je faisais vendredi, samedi, dimanche, la nuit, et je faisais les vacances. Et c'est-à-dire que je faisais, il me semble, 28 heures par week-end. Et ensuite, la semaine, j'étais étudiant. Je n'ai pas tenu très longtemps. Mais quand même assez pour me faire assez d'argent pour payer mon année d'études dans ce pays où tout coûte un bras.
Alors, justement, si j'ai bien compris, hein, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, le livre, votre étude, votre travail de fin d'études, vous l'avez publié.
Ouais,
c'est le premier livre sorti, c'est Ostwald, en 2017. Ostwald. Alors, si vous le voulez bien, on va surtout nous intéresser à vos ouvrages publiés. Et vous nous parlerez aussi de votre activité de performeur. Et enfin, de votre séjour à Saint-Étienne, hein, parce que vous travaillez aussi.
Ouais.
Alors, pour commencer, Thomas, est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de Bleu Laguna? Vous dites Laguna ou Laguna?
Laguna.
Laguna, pardon.
Non, non, mais on peut tout dire.
D'accord. De Bleu Laguna et le tout début, Garçon Rivière.
Garçon Rivière, ouais. Ok, d'accord. C'est une partie qui s'ouvre par une citation en exergue à un slogan publicitaire de Peugeot en 1987. Peugeot déplace les rivières. Vous comprendrez pourquoi. C'est une pub, c'est une campagne de publicité nationale qui a été mise en place par Peugeot en 1987. Et chaque poème commence par des coordonnées GPS que je ne vais pas lire, parce que ce sera absolument chiant. Mais vous pourrez emprunter le livre et aller checker de quels endroits précisément je parle. C'est une chasse au trésor, quoi. En février 1990, à Montbéliard, la rivière Allan est entrée en crue. Je n'étais pas là, je n'étais même pas né. En février 1990, mes parents étaient traversés par l'idée que bientôt courrait, sur le grand parking qui désormais couvre tous les marécages de mon pays, un enfant qu'ils ne savaient pas encore être moi. Mes parents rêvaient de moi. Moi, je rêve à la rivière Allan, je crois, que ce qui a convaincu mes parents d'avoir un enfant, c'est cette crue de la rivière Allan. Dans la nuit, l'eau a commencé à monter, elle a retrouvé son lit disparu. Somnambule, la rivière s'est assise à nouveau sur le parking coulé sur son membre fantôme. Elle a noyé les ateliers immergés, les 205, et c'était bien mérité. Quelques années avant la crue de la rivière Allan, Peugeot avait déplacé son cours pour y mettre des 205. Aujourd'hui encore, depuis le ciel où je me suis posé pour écrire ce poème, on voit le fossile du bras mort longeant la voie ferrée autrefois rivetée contre la rive de la rivière Allan. En février 1990, la rivière Allan s'est vengée de l'usine qui l'avait mutilée, et un monde où les rivières se vengent, c'est le seul genre de monde où l'on peut désirer élever un enfant. Quand je pense à mon enfance, je vois de l'eau, entourée par de la nuit. On est fait de 60% d'eau, le reste, c'est de la nuit. Ma mère a fait la guerre. Elle était une enfant tournoyant dans le quadrillage des pavillons paternalistes. Ma mère a fait la guerre, elle était armée d'un bâton de twirling, d'un chapeau de hussard et d'un uniforme bleu ciel. Ma mère faisait tournoyer son bâton de twirling dans l'air scian du polaroid ouvrier de son enfance. Ma mère était le rond unique dans un monde de calme. Ma mère a fait la guerre pour conquérir une mare peu avant que l'État ne la sèche et ne l'écrase sous le béton de la ZUP, ma mère a fait la guerre. Elle a conquis chaque jour une marque qu'elle perdait le jour suivant. Ma mère avait une armée avec elle, en face était une autre, où combattait mon père. Je me souviens de leurs souvenirs, je suis né de cette guerre. J'attendais mon heure, patiemment immergé dans la mare parmi les bottes envasées, batteries oxydées, carabines rouillées, carcasses de voitures abandonnées avec mes semblables, avec les pieuvres qui changent de couleur quand elles rêvent. Je veux être la rivière allant, Taris ou usine Peugeot de Sochaux, je veux marcher dans la direction où elle ne coule plus. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas dire à la conseillère d'orientation.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ce poème est celui de la genèse d'un enfant et aussi d'un poète ?
Ben oui, enfin, oui, tout à fait. En fait, il se trouve que quand ce livre sort en 2024, j'ai avancé dans mon œuvre de romancier déjà, parce que j'ai publié, c'est sorti en 2025, en fait, c'est sorti l'an dernier, j'ai avancé dans mon œuvre de romancier, c'est-à-dire pendant 10 ans, j'ai sorti 3 livres, 3 romans. Un roman, ça met du temps à être écrit, un roman, ça, c'est une certaine ampleur à chaque fois comme bouquin, mais c'est dans cette amplitude. C'est paradoxalement un espace assez étroit pour penser des fois. C'est-à-dire qu'un roman, il a son économie particulière. On essaie de saisir toute une série de questions, de les faire tenir ensemble, on essaie de faire tenir des situations, des personnages, des choses comme ça. En tout cas, le roman tel que moi je l'ai expérimenté dans ces 3 livres. Et il me manquait un espace où je pouvais raconter depuis quel endroit circonscrire l'endroit depuis lequel je racontais les choses. Et aborder finalement une forme de théorisation de mon geste de fabricant de fiction. Oui. Par le poème, voilà. Oui. C'est ça que j'ai fait ici, c'est je dirais un livre qui vient attraper chacun de mes romans, les faire aussi tenir ensemble pour dire, entre mes 23 et mes 33 ans, je me suis chaque jour posé la question de l'écriture, et chaque jour c'était pour essayer de comprendre quel imaginaire je pouvais déployer depuis l'espace géographique et social qui est celui de mon enfance. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à vouloir imaginer des fictions, donc j'ai commencé à me fixer cet objectif, à désirer faire ça, quoi, quand j'avais 22 ans, j'ai vite été confronté à une sorte d'incapacité assez fondamentale chez moi. Alors que je lisais, alors que la littérature américaine, par exemple, était très importante pour moi, j'étais un lecteur absolument passionné de Baldwin et de Toni Morrison, et ben, le seul endroit où j'arrivais à imaginer des fictions à peu près crédibles, c'était une sorte de périmètre de 30 km autour du lieu de ma naissance, quoi. J'étais comme un peu... je me suis dit à ce moment-là que j'étais attaché au territoire de mon enfance, mais pas comme on est attaché à une maison de famille dans laquelle on a du plaisir à aller en vacances. Bon, de toute façon, je ne viens pas d'un endroit de la société où on a une maison de famille où on va en vacances, mais bon, je peux bien imaginer qu'on a du plaisir à y aller. Mais j'étais plutôt attaché à cet endroit comme un chien à sa laisse, quoi. Et donc, j'ai tourné autour du poteau pendant 10 ans, et je me suis dit, il faut qu'à un moment donné que je l'aborde à la première personne et que je dise pourquoi je fais ça. Pourquoi ? Ben, en fait, la réponse pour moi est assez simple, c'est-à-dire que je viens d'un endroit dans lequel tout a été fabriqué et modelé pour répondre aux impératifs de la production capitaliste.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, tout cet espace-là, le pays de Montbéliard, mais ça pourrait être autour des usines Michelin, ça pourrait être autour d'Alstom à Belfort, ou ce qu'a été la manufacture d'armes de Saint-Étienne et les mines, quoi. C'est-à-dire, en fait, on est... Nos destinées et nos trajectoires sont... Avant même qu'on imagine sa vie, on est imaginé par le capitalisme dans cet endroit-là. Le capitalisme nous imagine avant même qu'on ait l'usage de la parole, avant même qu'on puisse se dire « quand je serai grand, je serai astronaute ». Le capitalisme a déjà décidé pour nous qu'on irait chez Peugeot. J'ai compris que ce que je devais faire et ce que je voulais faire, c'était couvrir de fiction cet espace qui était complètement déterminé par la production capitaliste, c'était y revenir et imaginer des poèmes depuis le parking du Leclerc où je fumais du shit, c'était imaginer des fictions depuis tous les endroits que j'ai côtoyés en tant que jeune homme qui a grandi dans la classe ouvrière de cet endroit spécifique. Peut-être que la fiction démarre et parte de là, quoi. Voilà, c'était ça.
Oui.
C'est un projet à la fois ambitieux et assez vague pour en tirer beaucoup de romans.
Alors avec ce départ-là, vous verrez, hein, quand vous lirez le recueil, je vous invite vraiment, vraiment à le lire au plus vite. Il y a quelque chose d'extrêmement poignant, au sens où votre langue, elle nous pique, elle nous pince, elle pince notre cœur. Et alors justement, parce que vous nous conduisez vers ces lieux de l'enfance, de l'adolescence, et on vous voit vous débattre. Enfin, moi, c'est en tout cas comme ça que je l'ai vécu. On vous voit vous débattre avec ce pays. Vous nous dites que c'est un pays qui pue, un pays qui est enkysté, dont les souvenirs collent.
Ouais.
Hein, j'essaie de reprendre un peu les termes que j'ai piochés de ci, de là, et dont vous n'arrivez pas à vous défaire jusque dans la langue. Mmh. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et justement, j'aimerais bien que vous nous lisiez un autre petit passage. Je crois que c'est vers la page 49.
Ouais, Pétricor.
Voilà, c'est ça. Pour que vous compreniez bien ce qui se joue dans la langue. Qu'est-ce que c'est qu'une langue qui colle ou qui... Une langue enkystée.
Je ne
sais pas comment le...
Donc cette partie s'appelle Pétricor. J'ai vécu dans quelques pays qui étaient pour moi des nouveaux pays qui sont chacun, tour à tour, devenus mon pays natal. Je veux dire que je ne m'y suis jamais senti chez moi, je les ai détestés jusqu'à les quitter pour porter mon dégoût d'eux dans un nouveau pays. J'ai vécu dans un tout petit pays 10 ans de ma vie, il était meublé comme une salle d'attente. Et je l'ai habité comme on attend dans une salle d'attente. Une nouvelle désagréable à entendre. J'ai la langue de mon enfance fichée quelque part dans un endroit de moi qui est de moi invisible. Un genre de piercing à l'âme, quelque chose comme un clou en argent, une baleine grise. J'ai la langue perdue, pas comme un trésor perdu, comme un pain perdu. Elle est molle et tiède maintenant. Elle n'était pas comme ça avant. J'ai un caillou coincé dans ma langue. Mon accent est une ruine, un peu. Je crois quand même un peu au pouvoir des mots. J'ai articulé les mots épicéa, bostriche, névé, au jury de la bourse littéraire. On m'a pris pour un homme des bois, un vrai homme des montagnes. Et on m'a donné les sous. Je sais pas dessiner mon éclipse. Chaque jour, j'ai cru... réapparaître. Je ne sais pas comment couler la dalle de mon sol de langage que je me suis choisi pour marcher dessus. Je sais que je ne sais pas vraiment comment on fait pour pas manquer de mots des fois, mais ça va. Ma débilité, c'est mon poteau, ça va, j'ai pas honte. Ça va, mais j'aimerais quand même réussir un jour à écrire les mots fuligineux, Fallot tempête, au bon bré, lard, chante pleure, pétricor, dans un poème. Voilà, c'est fait.
Bon, donc, on ne peut pas se défaire de la langue de l'enfance. On a la langue molle, hein, la langue pain perdu, sans socle. Et malgré tout, vous écrivez.
Oui, parce qu'en en fait, j'ai même envie de dire, on ne peut pas s'en défaire, mais c'est plutôt, on avance. Le fait de tous les jours se poser la question de sa phrase, au fond, de qui parle à notre place aussi. Parce que se poser la question de pourquoi est-ce qu'on utilise tel mot plutôt qu'un autre, c'est se poser aussi la question de qui souffle à notre oreille. Ça paraît conspi comme ça, et c'est complètement conspi en fait. C'est-à-dire que la question du pouvoir, la question de la domination, elle se joue aussi à cet endroit-là, quoi.
Alors justement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée. J'ai fait une petite liste. Voilà, on trouve dans Bleu Laguna les semelles Air Max, Basic Fit, 205 GTI, le déodorant Scorpio rouge, Decathlon, Castorama, Rotterman bleu ou rouge, je ne sais plus.
Bleu.
Bon, bleu. Ouais. Voilà. Alors, ces noms de produits, de grandes enseignes, de marques, alors ce qui est fou, c'est qu'ils contribuent vraiment au lyrisme puissant hein, du texte. Mais, alors, peut-être que la conspi est là, comme vous dites, mais il y a encore autre chose. Il me semble qu'ils jouent comme des déclencheurs de remémoration.
Oui.
Comme des odeurs, finalement. Mmh. Quelque chose de rémanent.
Et puis, ils participent au lyrisme du texte, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont intégrés au souffle. Voilà. Ils sont intégrés à... Enfin, essayer de construire... On a un rapport différent à sa langue d'auteur à chaque livre qu'on écrit.
Oui.
C'est-à-dire quand l'idée du style, pour moi, c'est une idée de critique. C'est pas une idée d'auteur. C'est, dans le sens où c'est pas à moi de définir mon style ou quoi. Moi, je me pose des questions. C'est au fond comment est-ce que la forme que prend ma phrase, elle va me permettre de remplir des objectifs esthétiques ou politiques que je me fixe, on va dire, dans chaque livre. C'est une dialectique, comme ça, on va dire, entre le fond et la forme. Et c'est de là qu'émerge la forme particulière de la phrase. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, ces questionnements, ils changent, en fait, de livre en livre. Et donc, moi, pour moi, il s'agissait de savoir comment est-ce que je peux faire poème avec cet univers référentiel-là. Et de faire du lyrisme, de faire du lyrique à partir de là, et pas d'arriver avec mon savoir ou ma connaissance de la poésie, et de tenter d'embellir ce pays que je décris comme un pays qui colle, un pays qui pue. Et quand je dis que c'est un pays qui colle, un pays qui pue, je dirais plutôt que c'est un pays qui colle à moi, et c'est un pays dont j'ai l'odeur. Voilà.
Et donc
il s'agit de ça, et la question de la conspiration, ce serait plutôt ça, ce serait la conspiration, c'est la conspiration littéraire, c'est la conspiration poétique, c'est finalement la langue qui n'est pas ma langue maternelle d'une certaine façon, qui est la langue des romans, la langue des poèmes, la langue des pièces de théâtre, mais aussi la langue académique, qui s'est immiscé dans ma tête à partir de mes 18-19 ans, parce qu'avant ça, j'étais un élève qui n'était absolument pas intéressé à la lecture, un élève qui était lettré comme n'importe quel élève qui sort du lycée, mais qui faisait pas usage des livres, qui s'intéressait pas aux livres. À partir de là, il y a cette langue-là, qui n'est pas la langue dans laquelle tu as appris à te penser d'abord, qui finit par rentrer dans ta tête, et par te penser toi-même, et par t'imaginer, voilà. Et la question, c'est à quel moment j'ai l'impression que tous les livres que j'ai lus parlent à ma place, quand moi, je me mets à fabriquer une phrase et d'essayer de négocier ça, de... Je sais pas comment dire ça, de... Ce qui fermente là-dedans, c'est un rapport politique à la langue. C'est de se dire comment écrire malgré le fait que particulièrement, l'école particulièrement, m'a mis dans la tête que la langue que j'employais jusqu'à ce que je me mette à lire des livres n'était pas une langue avec laquelle je pouvais penser. Et donc, dans les poèmes, c'est essayer de retrouver cette langue, et j'y arrive pas. La question, à la fin, on le voit, c'est que j'y arrive pas. C'est qu'à la fin, la langue à laquelle vous avez accès, c'est une langue qui réinvente une autre forme de lyrisme, une forme très triviale de lyrisme, mais à la fin, c'est une langue qui a quand même un usage encore assez, assez fréquent dans la poésie contemporaine. C'est une langue qui n'est pas du tout la langue que je parlais à 15 ou 16 ans, de la même façon que je ne m'exprime pas avec cette langue-là, je m'exprime avec un autre accent que j'ai volontairement perdu quand j'ai commencé à être interviewé à la radio et à la télévision, parce que je me réécoutais et que j'avais honte de cet accent. Enfin, et puis mon premier interview, c'est dans Luma. C'est Sophie Joubert qui fait un portrait de moi, 2017, pour la sortie de mon premier roman. Les tout premiers mots, c'est sur mon accent, de Montbéliard. Et deuxième interview, une semaine plus tard, Frédéric Roussel. Je fais la une du cahier livre de Libération. Moi, c'est un truc de fou pour moi. J'ai 26 ans, je sors mon premier livre. Mon éditeur me paye le TGV. Je fais Montbéliard-Paris le matin, je prends le train à 5 heures. J'arrive à Paris, il y a le photographe de Libé avec tous ses stagiaires, comme ça on monte un studio photo, on prend des photos de moi, je vais faire la une du cahier livre. Elle arrive vers moi pour m'interviewer, Frédéric Roussel, elle recommande mon accent en disant « Est-ce qu'elle a vraiment raison, Sophie Joubert? Est-ce que c'est vraiment un accent de Montbéliard ou est-ce que c'est... J'ai envie de dire, moi j'ai écrit un livre en fait. Est-ce qu'on va passer une heure à parler de mon accent ?» Alors je rentre à Montbé ensuite et j'ai visionné comme ça des heures de tutos YouTube faits par des Québécois pour prendre l'accent France Culture, quoi. Et je me suis dit comme ça, j'ai l'accent France Culture, voilà, on me fait plus chier, quoi. Et ben après on arrive là et en fait on s'aperçoit au bout de 5-6 ans à manier cet accent et puis à parler comme si on était un natif du 11e arrondissement, eh ben on se retrouve en fait à retourner dans l'endroit dans lequel on a grandi et dans lequel on revient souvent en vérité. Et puis en fait les gens ils se foutent de ta gueule la façon dont tu parles et surtout aussi tu n'es plus capable de retrouver la trace de cet accent. Et donc c'est perdu pour toujours. Mais pour moi, ce qui s'est passé avec l'accent, c'est juste une façon plus claire de comprendre ce qui s'est passé avec la langue en général, quoi.
Oui.
Voilà.
J'aimerais bien que vous lisiez un petit passage où, alors justement, là, je vais reprendre les termes de l'académie.
Ça me va. Hein, j'ai un master aussi.
Où l'on entend un lexique, où l'on repère un agencement syntaxique, où le rythme même me semble être tout particulièrement celui de l'usine hein, et le temps des machines. Donc c'est le poème, magnifique poème, Susiné,
ouais.
À la page 95. Et puis j'aimerais bien aussi, vous le montrerez, je ne sais pas comment on peut faire, mais parce que c'est aussi un poème pour l'œil, me semble-t-il. Hein. Vous allez voir, il y a une mise en page particulière, hein, où les énumérations sont sur des colonnes, et puis il y a une alternance, vous jouez avec les marges, marge de droite, marge de gauche, hein, qui contribue à visualiser le caractère répétitif.
Ouais, je vous les montrerai, ensuite je les lirai.
Ouais, voilà.
Et j'irai un petit peu vite sur un poème, vous comprendrez pourquoi, parce que sinon on va s'emmerder. Poème contexte. La frontière suisse, larve, invisible entre les deux Juras. Sous les sapins, les étangs et les montagnes, elle se glisse comme une taupe. Les motos des frontaliers, filant dans la nuit la Perse, en mille endroits la franchissent et l'écrasent. Le pays n'est peuplé que de gens qui le traversent. On se relaie sur son sol, on y fait les 3-8, le pays est si petit. Où que l'on soit, on ne voit que sa frontière. L'usine suisse est couchée contre la frontière suisse, elle brille au fond de la combe. La lumière des ouvriers de la nuit travaille la nuit de la combe. La nuit de la combe n'entre pas dans l'usine qui brille au fond de la combe. Sur le sol de l'atelier C, les lignes de peinture courent, s'étalent, s'étendent, se coupent, se croisent, s'effacent, s'évanouissent dans les zones où le jour travaille les gens du jour. Rouge, pour l'extrusion. Jaune, pour l'usinage bleu, pour les presses. Tracé dans la nuit par un ingénieur de nous, invisible, un de ceux qui organisent le jour, qui dorment la nuit, un Suisse. Portrait de Steven pendant la pause de 1h du matin le 8 juillet 2013. Steven dit que sa vie, c'est l'affaire de quelques gestes, qu'il répète sans cesse, y imprimant quelques variations jusqu'à ce qu'une nuit, il s'éteigne. Steven dit qu'à l'usine, au moins pour répéter des gestes, on le paie. Et la fumée du joint qu'il tient entre deux bagues d'étain serties d'onyx s'écrase sur la visière plate de sa casquette. Steven vit dans le temps des machines, il ne voit que leur lumière, le soleil rouge, sous ses paupières, l'éclat rougeoyant de la nuit. Ici, tout bouge et tout est immobile. Tu fabriques des choses dont tu ne connais que le nom, tu sais que ces choses sont des choses et c'est tout, des bobines, des stators pour statique, pour l'immobile, des bobines, pour le mouvant que l'on déroule. Tu saisis les bobines, tu saisis les stators, tu montes ensemble les bobines et les stators, tu les fixes, tu les figes et tout bouge et tout est immobile. Des bobines, des stators, 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 et toi peut-être, quelque part, dans une pause, un mouvement retenu de la chaîne dans une panne, un espace possible de temps et de rêve entre des bobines, des stators, des bobines, des stators, des bobines et des stators. L'usine t'usine. L'usine te fabrique, l'usine t'usine, c'est toi que tu fabriques, c'est toi que tu usines, un toit tout autre, un toit tout fait pour l'usine, une pièce de la chaîne. Le ronronnement de l'usine te poursuit, il t'entoure, partout tu l'entends, en marchant dehors, en rentrant de l'usine, en longeant le lac, tu plonges dans le lac pour l'oublier et il est là dans le champ de coquillages, dans le fond vaseux du lac. Le ronronnement de l'usine remplit tes rêves, le ronronnement de l'usine scande tes phrases. Ta seule syntaxe, c'est le ronronnement de l'usine. C'est des poèmes qui sont un peu particuliers à relire pour moi, parce que c'est des poèmes que j'ai écrits dans l'atelier même. Il y a donc 13 ans de ça.
D'accord. Alors, vraiment, dans le recueil, ce qui frappe, hein, c'est cette tension, et qu'on retrouve d'ailleurs dans tous vos livres, entre des forces centripètes, hein, celles qui resserrent, qui enferment les individus dans le travail répétitif de l'usine, et des forces, justement, de fuite, hein, celles qui conduisent les individus à partir, à s'émanciper, et ce terme d'émanciper, ou à dire non. Mmh. Et le père, notamment, alors je ne sais pas si vous avez bien compris, mais la Laguna, la voiture Laguna, c'est une Renault. C'est ça, hein,
ouais.
Je vais pas, voilà.
Ouais, c'est ça.
Et donc, c'est celle qui, le père, c'est le père qui possède une Laguna, et il me semble que lui, il concentre toutes ces tensions, cette figure du père. Il travaille à l'usine Peugeot, mais il roule en Renault Laguna. Et en plus, vous le dites dans le recueil, il fait tout pour que son fils sorte de, ouais. alors je sais plus comment, l'orbite, ouais. Soit expulsé de l'orbite qu'est la zone, hein, la zone, l'usine, l'endroit où vous vivez. Et donc la Laguna, ça apparaît donc comme un symbole d'émancipation, mais en même temps, votre rêve, vous le dites dès le premier poème, vous nous l'avez dit, c'est justement d'installer cette Laguna au fond de la rivière Allan.
Ouais.
Donc, bah, la Laguna, c'est l'émancipation, mais en même temps, alors qu'est-ce que c'est ?
En fait, au bout de ce paysage qui est scandé par tout un tas de noms de marques aussi,
oui.
La Laguna, qu'est-ce qu'elle incarne ? C'est un petit peu l'objet industriel qui va chapeauter tout ça. Moi je suis convaincu que mon père et tous mes oncles et tous les gens autour de moi avaient un rapport très individualiste à l'émancipation aussi. On va s'émanciper en travaillant beaucoup, on va s'émanciper en tentant d'acquérir certains types d'objets parce qu'ils étaient en panne. Parce que pour moi, l'émancipation, c'est un geste collectif, en fait. C'est quelque chose qui se construit collectivement. On s'organise collectivement pour s'émanciper collectivement. Et mon père a grandi au crépuscule du mouvement ouvrier, quoi. Et donc, pour le coup, j'arrête pas de dire pour le coup, c'est insupportable, il faut que j'arrête ça. Mais, donc, il a investi son émancipation et son désir d'émancipation pour ses enfants de façon hyper individualiste, en fait. Il s'agissait de déployer tout un tas de stratégies pour faciliter une trajectoire sociale ascendante, de son côté comme d'une autre, enfin, plutôt d'une autre que du sien, par ailleurs. Et je crois qu'il a investi... mon père a toujours roulé en Renault, alors qu'en tant qu'ouvrier de chez Peugeot, il avait droit à des réductions importantes sur les dernières voitures Peugeot. Et donc il en tirait une sorte de fierté, c'était un peu genre, il gaspillait son argent dans ce signe-là, quoi, qui était pour lui un signe de... Oui, il vivait ça comme une forme d'émancipation, il se sentait provocateur en roulant en Renault, quoi. Et moi je me suis dit, je vais essayer de prendre au sérieux ça, donc cette volonté comme ça un peu de survoler la communauté, quoi, à dire un peu je suis au-dessus de tout ça, moi regardez, moi j'achète pas la voiture du patron, j'achète la voiture que je veux, donc, rendre justice à ce geste-là que mon père considérait comme un geste assez important, mais dire aussi que c'est un geste que je me permets de juger comme un petit peu ridicule aussi. Et donc voilà, c'est à la fois, c'est la position dans laquelle je me sens par rapport à ce pays-là, c'est-à-dire que tout dépend à qui je m'adresse, quoi. En fait, j'ai l'impression que, je sais pas, je disais, donc quand j'ai présenté ce texte la première fois, quand j'ai fait un lancement en librairie à Paris, je disais que j'avais, j'ai l'impression que je suis le seul à pouvoir me considérer avoir le droit de porter ce regard méchant aussi sur cet endroit-là quand par exemple Télérama parle de la France moche, là d'un seul coup je deviens très agressif et très très méchant parce qu'ils n'ont pas le droit de dire ça. Par contre moi j'ai le droit de le dire parce que je grandis dedans et puis que je suis capable de, en tant qu'auteur, de me poser à un endroit ambigu et ambivalent, de dire qu'à la fois je puis ce pays et puis que je peux le regarder avec tendresse. À la fois, je peux dire que mon père s'émancipait par la voiture, mais que cette émancipation par la voiture est ridicule, qu'elle est belle et ridicule. Je peux dire les deux à la fois, parce que je suis auteur.
Oui.
Et que je suis auteur et que je viens de là et que depuis 10 ans, j'essaye de produire une littérature qui est capable à la fois de critiquer et de rendre un peu sa beauté à cet endroit-là, on va dire.
Oui, tout à fait. Alors, ce recueil, il est assez proche, par ses thèmes, hein, d'un roman paru en 2020, « Les nuits d'été », le voici. Et avec ce livre, vous poursuivez la tradition des livres d'usine. Mmh. Hein. Donc, je crois que tous et toutes, vous avez entendu parler de tout cela hein, cette année. On pense au récit d'établi, et d'ailleurs, vous avez travaillé vous-même hein, sur l'établi de Robert Linhart, sur les récits l'excès-l'usine de Leslie Kaplan. On pense aussi à François Bon, sorti d'usine. Mais également, alors là on quitte l'établi, mais on pense au récit d'une fille d'ouvrier, Martine Sonnet, hein, et avec son atelier 62. Et vous reprenez et vous développez cet imaginaire de la classe ouvrière, mais vous la montrez quand même en pleine mutation. Alors ça, c'est déjà présent dans Ostwald, le premier roman, mais encore plus dans les Nuits d'été. Alors, peut-être que vous pourriez nous lire le début.
Est-ce qu'on on a le temps?
Pas trop.
Bah non, mais je peux m'en contenter d'en parler alors,
oui,
si on n'a pas le temps.
D'accord. Alors, je vous en parle, je poursuis un tout petit peu et après vous nous en parlez. Alors, comme les auteurs dont on a parlé précédemment, vous aussi vous partez du vécu.
Oui.
L'enfance, les métiers des parents, le chômage, les boulots d'été, le délitement de la culture ouvrière qui est remplacé par, alors moi j'y ai vu beaucoup de solitude, la solitude des opérateurs. Mais si vous vous inscrivez bien dans une veine littéraire, vous choisissez, vous, le roman.
Ouais.
Ce n'est pas des romans tout ce qui précède, tout ce dont on a parlé. Alors que permet le roman par rapport au récit, mais aussi par rapport à la poésie? Parce qu'on a dit que les thématiques étaient proches. Et plus largement, que permet pour vous la fiction? Parce que j'ai lu dans la présentation qui est faite de vous sur le site des bibliothèques de Saint-Étienne qu'avec l'écriture, je cite, « vous souhaitez explorer les zones de frottement entre réalité sociale et fiction
ouais. »
et faire en sorte que l'imaginaire devienne un outil pour interroger le présent.
Oui, ça semble, si j'ai écrit ça, c'était dans une tentative un peu vaine d'être assez général, quoi, je pense.
Oui.
Je suis globalement d'accord, même si je me trouve un peu trop général. On va dire que je pense que alors c'est des textes que j'ai beaucoup côtoyés en tant que masterant. C'est bien ça qu'on dit. En fait, quand j'ai terminé mon passage en école d'art, et j'ai décidé d'aller rejoindre l'université de Lausanne pour faire mon mémoire avec un sociologue de la littérature qui s'appelle Jérôme Maizot. Et parce que j'étais intéressé. Alors bien sûr, il s'était fait connaître pour tout son travail sur les postures d'auteur, vraiment plutôt un travail vraiment de sociologie de la littérature qui accorde en fait une place ambiguë au texte, je trouve. Alors qu'il avait aussi écrit un livre qui s'appelle « L'œil sociologique de la littérature », qui moi était un livre qui m'intéressait parce que lui-même, il est auteur, lui-même il s'est intéressé au texte d'ouvrier paysan, il a fait son doctorat, c'était un doctorant de Bourdieu. Donc voilà, je suis allé à l'université de Lausanne pour suivre ces cours-là et puis pour affiner finalement l'œil sociologique de ma littérature dans le but concret d'écrire les nuits d'été. Et donc, pour le coup, dans ce mémoire que j'ai considéré comme un mémoire de recherche-création quasiment, j'ai décidé qu'à côté de l'écriture des nuits d'été, j'allais me positionner en tant que critique par rapport à la littérature d'établi. Et donc c'est une littérature que j'ai beaucoup côtoyée. J'ai l'impression que par la fiction et par la poésie ici, je propose deux réponses contemporaines.
Oui.
Et quand je dis contemporaine, c'est par les formes de la littérature contemporaine, mais également en regardant de façon honnête ce qu'il reste de la classe ouvrière, ce qu'on peut encore éventuellement nommer classe ouvrière aujourd'hui, une classe sociale dans laquelle la centralité de l'usine, c'est plus tellement une question aussi évidente que ça. C'est une classe, c'est une classe ouvrière, c'est aussi le chômage, c'est aussi la logistique, c'est beaucoup de choses différentes, mais ici, je ne suis pas sociologue et on n'est pas là pour parler de sociaux, mais toutefois, c'est, me dire que, je dirais, à travers la poésie, je peux diffracter, exploser, consteller, diffracter la perspective individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, le recueil de poèmes, c'est pour moi, je le vois comme un récit explosé, dans plein de perspectives différentes, où le paysage va parler à ma place, où les objets vont parler à ma place. En fait, dans chaque poème, on repose la question de la forme à nouveau frais. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'on peut voir un roman comme un seul et même poème, où le programme esthétique est lancé au départ et on s'y tient jusqu'à la fin. Ici, là, on peut réinterroger ça à chaque poème, 10 lignes. On a un nouveau programme poétique. La perspective individuelle pour la poésie. Et dans les romans, j'ai tenté de sortir de la perspective individuelle qui, pour moi, mène à une perspective individualiste. Dans le sens où j'ai comme l'impression que le roman est un piège idéologique dans lequel, à la fin, on finit toujours par raconter une histoire de méritocratie. Et que c'est quelque chose de c'est très difficile de s'en défaire. Je ne suis pas convaincu que je parviens complètement à m'en défaire dans Les Nuits d'été. Toutefois, dans Les Nuits d'été, le projet était d'aborder la question de la trajectoire sociale de mes personnages, de la place de l'usine, dans la vie de leurs parents, dans la vie de leur quartier, dans leur vie. À travers trois perspectives concomitantes et qui ont une place égale. Et donc c'est une sorte de... C'est comme trois récits qui s'entrecroisent. Et la première version des Nuits d'été, j'avais à 100 ou 200 mots près chaque perspective de trois personnages. Donc c'est, on passe du point de vue de Thomas au point de vue de Mehdi au point de vue de Louise. Chaque point de vue avait exactement le même nombre de mots. J'avais voulu comme ça une sorte d'égalité parfaite entre les points de vue pour qu'aucun ne passe l'un sur l'autre et que chaque point de vue éclaire d'une façon un petit peu différente à chaque fois les mêmes questions, les mêmes endroits, etc. Et, c'est-à-dire en fait, la fiction pour moi ici, c'était une tentative de collectiviser ces récits qui revenait à ce moment-là dans le paysage littéraire contemporain. C'est-à-dire que c'est le moment de Joseph Pontus. C'est le moment de... Alors, il se trouve que c'est des textes qui ont été écrits tous en même temps. C'est-à-dire que beaucoup de ces textes qui reconvoquent un imaginaire du roman d'établi et du roman prolétarien, en fait, on a été une dizaine d'auteurs à les écrire en même temps sans se concerter.
Oui.
Ça dit quelque chose. Et donc, la fiction, elle me permet ça, elle me permet de pas raconter ma vie, pas juste raconter ma life, et de ce fait, de pas m'héroïser, et de pas avoir la tentation de parler de ma trajectoire comme une trajectoire exemplaire, et pourquoi je n'ai pas envie de le faire. Parce que j'ai comme l'impression que de ne pas faire attention à ça, c'est donner des armes à des personnes que je combats. Et ce que je veux dire, c'est que de jouer le jeu de la méritocratie, c'est aussi accepter qu'on se serve de ma trajectoire comme d'un exemple qui va être utilisé pour humilier les gens avec lesquels j'ai grandi. Genre un peu, dire à mon cousin, mais regarde où t'en es, c'est que t'as pas fait d'effort, parce que regarde où il en est, Thomas. Alors qu'en vérité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, une trajectoire sociale. En fait, c'est un travail collectif. Et mes cousins, d'ailleurs, ont contribué à me permettre de construire cette trajectoire sociale qui m'amène aujourd'hui à vous parler. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais pour moi, en tout cas, c'est une... Alors, est-ce qu'elle est réussie ? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, c'était une tentative de sortir des schémas individualistes proposés par le roman depuis très longtemps et d'avoir comme ça un rapport au récit d'une trajectoire sociale, on va dire, transclasse.
Oui.
qui se raconte dans l'interaction entre différents individus, entre différents... voilà. Et donc, pour le coup, à chaque fois que le roman raconte la vie d'un personnage, tout de suite, il y a le chapitre suivant qui va servir de contrepoint.
Absolument.
Qui va servir à l'éclairer d'une autre façon. Oui. Quand Louise se sent héroïque, Mehdi la regarde et elle est un peu ridicule en vérité. Voilà. Ça vient s'interroger, ça fait. Et puis quand on a l'impression qu'ils font quelque chose de beau et de fort et de bien, le chapitre d'après, on voit les conséquences négatives de ce qu'ils viennent de faire. Voilà.
Oui, parce que je ne sais pas, je crois que vous avez travaillé un petit peu sur cet extrait, sur ce livre. Hein, donc vous avez compris quels étaient ces trois points de vue. Ouais, voilà. Donc bon, j'avais des questions sur Louise en particulier.
On peut en parler. Non, mais ça me va, moi, c'est intéressant, sinon. Oui. Sinon ouais.
Alors, bon, moi, ce qui m'intéressait avec cette Louise, donc Louise, vous l'avez compris, c'est la chercheuse, hein, c'est celle qui veut démarrer sa thèse sur la question, justement, de la condition ouvrière des frontaliers.
Ouais, parce qu'elle a du mal à démarrer, ouais.
Elle a du mal à démarrer. Et dans le livre, vous verrez, elle mène des entretiens. Donc elle est en sociaux, on peut imaginer qu'elle est en sociaux. Elle mène des entretiens, et notamment un entretien auprès de Mehdi, qui est aussi son amoureux et qui, lui, bosse à l'usine. Et donc il y a un passage magnifique qu'on n'a sans doute pas le temps de lire, hein, où on se rend compte qu'elle l'interroge sur ce qu'est être ouvrier. Hein, et lui essaie de définir tout cela. Et puis à la fin de l'entretien, donc véritablement, l'entretien, il est là. Hein. On a le mot enquêteuse, enquêtée. Bon. Et à la fin de cet entretien, ça dérape. Mmh. Vous vous souvenez ?
Je ne me souviens plus.
Alors, je le reprends. 171,
c'est trop longtemps.
171, c'est juste pour montrer le dérapage. C'est-à-dire qu'en réalité, il se met à lui parler de...
Oui, il se met à lui parler d'elle.
Voilà.
Il se met à la draguer pendant l'entretien.
Exactement.
Parce que parce qu'en fait, elle fait quelque chose. Elle fait quelque chose de violentant pour lui. Elle fait quelque chose de vraiment pas correct en termes de méthodologie, mais aussi en termes humains, quoi. C'est-à-dire que elle a. Il me semble que Louise, à ce moment-là, en gros, elle aurait bien envie que. D'intégrer son amoureux à ce qu'elle est en train de vivre. Et donc, elle décide de jouer un petit peu avec lui et de mimer l'entretien guidé, quoi.
Oui.
Tel qu'elle le pratique en tant que sociologue avec lui, ce qu'il faut en vérité pas faire, parce qu'elle le fait sans préparation, elle le fait sans méthode, elle le fait dans des termes absolument vagues, mais toutefois, il se produit quelque chose malgré elle à ce moment-là. D'abord, lui, il reprend... du pouvoir dans cet entretien, parce qu'en fait il est charmant de toute évidence il se passe quelque chose au-delà de ça. Donc ils sont amis d'enfance et ils commencent à entamer une liaison amoureuse à ce moment-là, quelque chose qui les étonne l'un et l'autre. Et puis surtout, c'est un entretien qui est enregistré. Et le fait que cet entretien soit enregistré joue un rôle dans le roman.
Oui.
Et là, je suis désolé, je vais devoir dévoiler la fin. C'est-à-dire que le personnage de Mehdi meurt dans un accident de moto. Et à la fin du texte, est en forme d'épilogue. Ça se passe quelques mois après. Et ça se termine par Louise qui est en train plus ou moins d'abandonner sa thèse. Ça ne va nulle part, quoi. Et c'est très bien. Il y a tout à fait, il y a une vie en dehors de l'université. On n'est pas obligé de faire une thèse. ça se termine par une errance nocturne sur son ordinateur, et où elle ouvre, c'est pas un hasard, mais elle ouvre sans beaucoup de préméditation, en tout cas, le fichier dans lequel elle a classé les entretiens enregistrés avec Mehdi, qui est mort des mois auparavant et dont elle a oublié la voix. Le personnage de Mehdi, c'est un personnage, je le dis un peu tard, mais c'est un personnage qui est inspiré d'une série d'amis d'adolescence, dont certains sont morts sur la route, et qui sont morts sur la route de l'usine. Voilà.
qui sont présents d'ailleurs dans presque tous les textes.
Oui, oui, bien sûr, il y a des accidentés de la route tout le temps. Et parce que l'endroit d'où je viens est constellé comme ça de bouquets de roses éternelles, un virage rose éternelle, ce qu'on dit les roses en plastique, quoi, qui deviennent toutes pâles en 3 mois au bord de la route, des portraits photocopiés qui deviennent tout bleus en quelques mois, dans des virages, dans la montagne, sur des cols et tout. Et donc en fait, elle ouvre ce fichier et d'un seul coup, la voix de Mehdi retentit dans son appartement la nuit. Et on accède à la fin de l'entretien que j'ai monté et que je n'avais pas donné à entendre dans la première partie du livre dans lequel cet entretien était enregistré et où elle lui demande, puisqu'il s'apprête à quitter son travail dans une usine dont l'atelier va être déplacé en Italie, elle lui demande ce qu'il compte faire après. Et là, c'est un entretien que j'ai véritablement enregistré avec un ami très proche qui s'apprêtait aussi à quitter son travail dans les mêmes circonstances, dans une autre usine, au Luxembourg, lui. Et je lui dis, ben voilà, je lui ai demandé, tu comptes faire quoi après? Parce que pour l'écriture de ce livre, j'ai moi-même décidé de mener des entretiens pour cacher des vrais morceaux d'entretien dans le livre.
J'allais vous le demander.
Ouais, ouais.
Ah, oui.
Et il y a des punchlines que j'aurais pas pu inventer, quoi, dedans. Ouais. Je pense notamment quand il y a un personnage qui dit la Suisse c'est pas un vrai pays, la Suisse c'est juste une banque et pas le genre de banque dans laquelle on rentre pour gentiment poser son argent et l'épargner, mais le genre de banque dans laquelle on rentre cagoulé pour la braquer. Mmh. Voilà, c'est des choses comme ça pour m'ouvrir à son propre imaginaire de ce pays banque qu'est la Suisse. Et donc voilà, je fais des détours et des contours, mais pour dire que dans cet entretien que j'ai fait avec un ami d'adolescence, je lui demande ce qu'il va faire après, et puis il me dit « je vais dormir ». D'abord je vais dormir et après on verra. Et cet entretien conclut le livre, donc on a un personnage mort dont la voix retentit dans l'appartement, et Louise lui demande « qu'est-ce que tu comptes faire après ça ?» Et il dit dormir, et c'est les derniers mots du livre.
Oui.
Un livre où pendant tout le long, on travaille la nuit, on subit ce que fait à notre corps le travail de nuit, et on termine par cette apparition fantomatique, ce spectre, qui dit que, au fond, maintenant, c'est bon, il dort. C'est ce que lui a réservé la vie, quoi. Il peut enfin dormir, il est mort, quoi.
Fantôme qui, là aussi, parcourt tous vos livres.
Ouais, et parce que moi, pour le coup, le fantôme, je le vois comme un... Enfin, je pense que je suis convaincu que la hantise a à voir avec l'écriture de fiction, oui, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que je vois mes livres comme des maisons hantées, dans le sens où je propose aux lectrices et aux lecteurs d'être hantés par les mêmes fantômes que moi. Et ces fantômes, je pense qu'il est heureux qu'il et elle soient hantés par eux. Parce que c'est être hanté par un fantôme comme celui de Mehdi, ça a un sens politique particulier quand on connaît la sociologie des lecteurs de littérature contemporaine.
Oui, absolument.
C'est-à-dire, le personnage de Mehdi, il incarne le cauchemar des conservateurs et des racistes, en vérité. Et donc, moi, ce que je propose... aux lectrices et aux lecteurs, c'est ça, c'est d'être hanté pour quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années, si j'ai bien fait mon travail, par ce personnage qui me hante moi-même aussi. Et il se passe quelque chose de trop bizarre avec ce livre, parce qu'il va être adapté au cinéma, et donc il va être adapté au cinéma par mon petit frère, qui est réalisateur de films. Et en fait, mon petit frère a entendu parler de ce personnage qui a inspiré Mehdi, mais il ne l'a pas connu parce qu'on a trop d'années de différence, lui et moi. C'était un personnage qui était présent, on va dire, dans ma vie privée d'adolescent. Et un personnage, je prenais soin de ne pas le présenter à ma famille. Et donc, pour avoir ma vie privée, quoi. Et en fait, Antoine est en train d'écrire le scénario et je le laisse un petit peu tranquille parce que avec lui, j'ai tendance à être un grand frère, quoi. J'ai tendance à lui expliquer la vie. Donc je le laisse faire son travail tout seul. Et, Et donc, il est en train d'avancer sur l'écriture de ce personnage, qui donc, pour moi est un personnage de fiction que je construis à partir d'un personnage réel, qui a été très important dans ma vie parce que je l'ai vu mourir sous mes yeux. Et Antoine est en train, comme ça, donc, d'écrire ce personnage à partir de la fiction que j'en ai faite. Et ce personnage, il va finir par être incarné par une vraie personne à l'écran.
Oui, c'est très troublant.
Et ça, c'est vraiment très étrange. Oui. Ça, et il se passe un moment très étrange pour moi, parce que le moment du casting n'est pas encore arrivé, et je le redoute. Parce que... on est voilà, dans un... On disait pourquoi la fiction, parce que la fiction, elle est capable de créer ce genre de vertige, en fait.
Bien sûr.
Et moi, je trouve que c'est le genre de truc complètement fou pour lequel je me dis, j'ai bien fait de faire le choix de la fiction, parce que ça n'aurait pas pu arriver autrement, en fait. Et voilà. Et donc, je ne sais pas ce que je vais faire de cette incarnation. Je lui ai juste demandé, je lui ai dit, je vais pas te faire chier sur l'écriture du scénario. Et j'ai juste envie d'être dans la voiture quand tu filmeras les scènes de moto. Mmh. J'ai envie d'être là, mais c'est un kiff personnel, quoi. Mais je pense
oui,
que...
parce que c'est vrai que c'est pour quelqu'un qui n'a pas le permis, si j'ai bien
compris... Oui, j'ai pas le permis, non.
La voiture, elle est vraiment omniprésente. Hein. Alors, la voiture, c'est les usines Peugeot, mais c'est...
Mais j'ai raté trois fois le code, et après, j'ai abandonné.
Ah oui, voilà. Bon, alors, c'est une catastrophe. Il nous reste 8 minutes.
Ouais. Donc, désolée, j'ai trop parlé.
Non, pas du tout. Mais moi, j'imaginais qu'en réalité, on avait beaucoup plus de temps, finalement. Comme vous avez travaillé un petit peu sur ce texte, hein, Les Nuits d'été, vous avez peut-être des questions qui vous viennent, ou tout autre chose d'ailleurs, hein, des remarques sur ce qui s'est dit pendant cette rencontre. Allez-y. Vous avez travaillé... Oui.
Moi j'ai une question, mais qui est un peu pratico-pratique. Qu'est-ce que comprend le concept de résidence d'écriture? Et pour vous et pour l'université?
Ça comprend 30% de mission, 70% d'écriture personnelle, quoi. Donc j'ai livré un projet de roman. Ici, là je suis là pour un roman. J'ai sorti mon dernier roman il y a 2 ans. J'ai été pris par le théâtre, la poésie, le ciné. Et donc, pour le coup, je n'ai pas eu le temps de me poser pour écrire un roman. Donc, la résidence, ça me donne là 3 mois pour véritablement le commencer, quoi. Et m'y mettre. Et puis, les 30% de mission, c'est comme là tout de suite. C'est aussi un atelier d'écriture que je donne à Firmini au lycée Albert Camus. Et on a fait un atelier d'écriture toutes les semaines. On a imaginé un annuaire des monstres de Firmini, quoi. Et c'est ça. Et donc je suis dans un appartement, comme c'est Saint-Étienne, c'est l'appartement le plus immense de toute ma vie. je vais déménager ici, en fait. Je retourne plus dans le 18e arrondissement. Et voilà, j'écris dans de très bonnes conditions, quoi. Et c'est chouette, j'ai beaucoup de temps et j'ai beaucoup de solitude aussi. Que je peux. Ça me demande de l'espace mental, et c'est un espace, comme tout le monde, qui est pris par la précarité un peu inhérente à ce travail, où on est tout le temps obligé de chercher des commandes, des bourses, des occasions de gagner de l'argent, parce que même si mes romans se vendent plutôt bien, je peux pas vivre de mes droits d'auteur. Je pense que si ça se passe bien, en droit d'auteur, j'arrive à avoir un tiers de SMIC par an, quoi. Pas possible. Ouais.
J'aimerais bien, si vous en êtes d'accord, que vous nous parliez de la question du corps dans Les Nuits d'été, puisqu'on en a un peu parlé en cours aussi au sujet d'autres œuvres, mais c'est quelque chose qu'on a remarqué en prenant le Wikipédia du texte notamment, qui commence avec des odeurs, des bruits, etc. Et de manière générale, cette question du corps ouvrier qui est marqué et qu'on voit très pratiquement en étant enfant d'ouvrier, comment vous arrivez à l'intégrer dans votre écriture et dans la fiction, finalement?
Et l'idée était de partir de la sensation, de toujours être ramené à, de toujours me ramener moi-même à ça dans mon écriture, et puis pas de penser l'usine ou de disserter, quoi. plutôt d'y revenir tout le temps et puis d'interroger ma phrase avec ça aussi, quoi. Comment est-ce que je reviens à la sensation? Comment est-ce que je donne à sentir ce que c'est que d'être à l'atelier, d'être au poste et pas de l'expliquer, pas de le démontrer, de donner à sentir ce que Robert Linhart qualifie de lutte de la vie contre la mort. La vie c'est le corps de l'ouvrier et la mort c'est la mort, le métal froid, la machine. Et puis bien sûr entre temps il se passe beaucoup de choses, il se passe des choses. Voilà, il veut parler aussi du processus d'aliénation, quoi. C'est des choses. Mais si je parle du processus d'aliénation, je veux en parler à partir de la sensation, je veux en parler à partir du corps. Et donc à partir de là, ça amène plein de choses, quoi. Mais c'est d'abord parler de ça, d'abord de parler aussi de la fatigue particulière, la façon dont ça nous décalque, ça nous déplace, quoi, le travail de nuit. Ça nous met à côté de nous-mêmes. Donc, partir de là. Et je pense que c'est mon insipide le plus concret dans tous mes livres. Et là, pour le coup, c'est des phrases nominales avec des odeurs et des bruits. Et on y revient parce que c'est ça, en fait, la façon, le Big Bang, quoi, qu'est cet atelier. Ça se rappelle à nous comme ça tout le temps. Et des moments où on se perd dans une rêverie, on est soit perturbé par ces odeurs, par ce bruit, par ces mouvements. Et des fois, on est perturbé par un accident. Que, concrètement, moi, j'ai vu des gens se faire très mal. Et voilà, et l'idée à partir de là, c'était de construire une phrase qui donne à sentir la fatigue et qui donne aussi à sentir la répétition du même à l'infini. Et puis c'est toujours le truc dans les romans, c'est de négocier pour que ça ne soit pas juste une tentative formelle et que ça puisse s'intégrer dans quelque chose de plus digeste, on va dire, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je crois que c'est là qu'elle est forte, la littérature, la fiction particulièrement, quoi. C'est donner à sentir. Si je voulais le démontrer, si je voulais monter en généralité à partir de la description du réel, je ferais de l'anthropologie ou je sais pas quoi. Enfin, j'utiliserais d'autres types de méthodes et d'autres types d'écriture. Non, je suis un fanatique des plans. D'ailleurs, je suis content d'avoir un grand appartement parce que j'ai acheté chez Monoprix un grand rouleau de papier craft et j'en ai étendu 8 mètres dans ma chambre comme ça. Donc j'ai un plan, chez ma actentielle, on va dire. Enfin, je peux inventer mon plan. Donc il y a un plan. Quand je commence la première phrase du roman, je sais quelle va être la dernière, plus ou moins. Enfin, en tout cas, je sais de quoi va parler la fin. Et pour la nuit d'été, je savais que ça allait être dormir. J'étais pas encore absolument sûr que le personnage de Mehdi devait. Il y avait une fin horrible où il était très handicapé. Et j'ai décidé de l'enlever parce qu'en fait, elle était cruelle. Mieux vaut le voir mort qu'handicapé, très honnêtement. Mais je savais que la dernière phrase allait être dormir pour une raison. Je voulais aussi, comme on lit beaucoup le soir, je voulais qu'on ferme le livre et qu'on dorme, quoi. Voilà. Je trouvais ça marrant. Mais voilà. Donc il y a un plan, je sais où je vais. Après, je ne sais pas forcément toujours ce qu'il y a en chemin. Je me laisse le découvrir au fil de la plume, ça, pour le coup. Parce que c'est toute la magie, entre guillemets, de l'écriture. C'est ce qui me plaît quand je m'y mets. Hein, de me dire que la phrase, elle va m'amener une nouvelle idée. Et mes personnages n'existent pas vraiment avant que je les écrive. C'est là qu'ils commencent à trouver de la chair.
Bon, eh bien, je crois que vous allez pouvoir aller dormir, si vous le souhaitez. En tout cas, Thomas, vraiment merci à vous pour cette rencontre. Et on vous souhaite une belle fin de
résidence.
Résidence à Saint-Étienne.
Merci beaucoup.
Et on attend le prochain livre.
Moi aussi.
Il y a un livre qui sort dans 2 mois.
Ouais.
Au Solitaire Intempestif, qui est une très belle édition théâtrale, Et le livre s'intitule Thomas.
Martin est un poisson.
Martin est un poisson. Voilà. Martin est un poisson.